What's Up, le podcast zéro émission par Automobile Propre.
Tesla élargit encore la gamme de son best-seller, la Model Y. Une grosse mise à jour arrive sur les Tesla avec plein de nouvelles fonctionnalités. Encore chez Tesla, l'abonnement pour la recharge baisse pour les non-Tesla. Ce qui n'empêche pas le constructeur américain de se séparer de 10% de son personnel, comme quoi toutes les nouvelles ne sont pas bonnes. Fastned qui inaugure une station de recharge New Look. Et enfin, toujours dans le domaine de la recharge, BP qui licencie car cela ne marche pas comme prévu. Voilà pour les grands titres de l'actualité de la voiture électrique cette semaine, où vous aurez remarqué que Tesla fait encore la une sur plusieurs sujets. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi l'interview d'un manager de BYD France, la marque chinoise qui n'en finit pas de monter. Bienvenue dans le podcast What's Up par Automobile Propre, épisode 113 du 20 avril 2024.
L'actu de la semaine.
Tesla vient de lancer en France une nouvelle version du Model Y avec une autonomie record de 600 km grâce à sa grande batterie. Cette variante grande autonomie propulsion n'a qu'un seul moteur mais profite du bonus écologique de 4 000 € car son prix de 46 990 € reste sous le seuil d'éligibilité. Avec ce tarif avantageux et ses performances améliorées, le Model Y revient dans la course face à ses nouveaux concurrents comme le Renault Scénic qui annonce 625 km d'autonomie pour le même prix. Cependant, le Model Y reste mieux équipé en série et sa puissance de recharge maximale de 250 kW est nettement supérieure à celle du Scénic. Cette nouvelle offre permet à Tesla de se repositionner avantageusement sur le marché des véhicules électriques haut de gamme en combinant une grande autonomie, des performances améliorées et un prix compétitif grâce au bonus écologique. Tesla a dévoilé une importante mise à jour logicielle pour ses modèles, avec notamment l'AutoShift Beta qui permet un changement automatique des modes de conduite avant, arrière et stationnement en fonction de l'environnement. Un petit peu ce qu'on trouve sur la dernière version de la Model S et la dernière version de la Model 3. Une nouvelle interface utilisateur actualisée est aussi au programme, ainsi que l'ajout d'Audible ou Audible en natif et d'une nouvelle version de Spotify améliorée. L'ouverture main libre du coffre quand le conducteur s'en approche avec sa clé fait également partie des nouveautés, avec sa clé ou avec son téléphone donc. Toujours Tesla a mis en place le 13 avril une nouvelle formule d'abonnement pour l'utilisation de son réseau de superchargeurs qui est destiné aux propriétaires de voitures qui ne sont pas des Tesla. Avec cet abonnement, les conducteurs de véhicules électriques bénéficient de tarifs réduits au kilowattheure pour la recharge. Les frais d'adhésion mensuels ont baissé, passant de 12,99€ à 9,99€ par mois. Mais mieux, Tesla propose également un abonnement annuel à 100€ tout rond, soit 16% de réduction par rapport à l'option mensuelle. Les propriétaires de Tesla sont automatiquement membres et profitent des tarifs préférentiels. Et les autres utilisateurs peuvent accéder aux superchargeurs sans abonnement, mais devront payer un prix au kilowattheure plus élevé. Une nouvelle structure tarifaire avec des frais d'adhésion réduits qui rend l'accès au vaste réseau de bornes rapides Tesla plus abordable pour l'ensemble des conducteurs de voitures électriques et donc pas seulement les conducteurs de Tesla. Cependant, malgré le succès commercial du Model Y, toutes les nouvelles ne sont pas réjouissantes pour Tesla. Pour autant, l'entreprise fait face à des difficultés économiques qui l'obligent à prendre des mesures drastiques. Elon Musk a confirmé que Tesla allait licencier plus de 10% de ses employés à l'échelle mondiale, soit au moins 15 000 personnes sur les près de 150 000 salariés à la fin 2023. Cette vague de licenciements d'une ampleur inédite vise à réduire les coûts après une croissance trop rapide ayant entraîné des doublons dans certains rôles, selon Musk. Le constructeur a en effet connu un premier trimestre 2024 décevant, et on l'avait déjà dit, avec seulement 390 000 livraisons, bien en deçà des 430 000 prévus. Tesla a également dû réduire sa production à Shanghai le mois dernier. Elon Musk s'inquiète de la pression exercée par les marques chinoises et a ralenti certains projets comme l'usine Giga de Mexico. Fastned, l'opérateur néerlandais spécialisé dans les bornes ultra rapides, a franchi une nouvelle étape. L'entreprise a inauguré sa première boutique avec restaurant à côté d'une station de recharge sur l'axe rapide E19 près de Brest en Belgique. Cette installation pilote vise à améliorer l'expérience client pendant la recharge en proposant un espace de repos avec toilettes et restauration sous une structure en bois éco-énergétique. Alors ça paraît comme ça complètement banal quand on pense aux stations-service classiques, mais c'est assez innovant en ce qui concerne les stations de recharge. Avec cette première boutique attenante, la Fastned entend répondre aux besoins des électromobilistes en leur offrant un espace de détente pendant des temps de recharge rapide sur l'autoroute. Mmh. Enfin, toujours dans la recharge, mais un peu moins réjouissant, le géant pétrolier BP fait marche arrière sur l'électrique et annonce des suppressions d'emplois au sein de sa filiale BP Pulse, dédiée à la recharge de voitures électriques. Cet abandon de nouveaux marchés à travers le monde semble être un aveu d'échec pour BP dans ce domaine, sur un effectif global de 900 personnes chez BP Pulse, qui fait quand même pas beaucoup par rapport à la taille du groupe. Une centaine d'emplois vont être supprimés, la plupart des travailleurs étant transférés vers d'autres divisions. Le PDG de BP justifie cette décision par un ralentissement du marché des flottes de véhicules électriques commerciaux sur lequel la société avait misé assez gros. BP Pulse s'est également retiré de 8 des 12 pays où elle opérait pour se concentrer désormais uniquement sur les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Chine, des marchés jugés plus prometteurs.
L'interview de la semaine.
On ne présente plus BYD, la marque chinoise de voitures électriques qui fait la course en tête avec Tesla en nombre de voitures vendues dans le monde. À l'occasion de son rapide déploiement en France, nous faisons le point avec son responsable des relations presse, Jean-Briac Dalibard. Bonjour Jean-Briac Dalibard.
Bonjour Eric.
Vous êtes PR Manager de BYD France. Alors PR Manager, c'est responsable des relations presse, des relations avec les médias, c'est bien ça?
Absolument.
Pouvez-vous nous présenter BYD France en quelques mots?
Oui, avec plaisir. Donc BYD France, c'est la filiale BYD commerciale pour le développement des ventes de la marque BYD en France.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est une trentaine de salariés, 26 points de vente et surtout, c'est une offre commerciale assez récente puisque la marque s'est installée en France en juin 2023.
Donc c'est vraiment tout neuf. BYD, ça veut dire quoi? Bring your device?
Non, ça veut dire « build your dreams ». C'est une sacrée promesse faite par le fondateur, effectivement, de proposer des véhicules électrifiés à un prix accessible.
Donc, vous avez déjà combien 26 implantations en France 26, c'est quoi? C'est 26 concessions?
26 concessions, absolument, à travers 7 groupes de distribution très connus. Ouais. L'idée de BYD, c'est de s'associer à des grands partenaires professionnels de l'automobile, déjà implanté en France et qui maîtrise les quatre métiers de l'automobile que sont le VN, le VO, la prévente et les pièces de rechange.
Quelles sont les voitures ou quels sont les modèles de BYD disponibles en France aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, pour la partie VP, donc véhicule pour les particuliers, on a deux gammes. Une gamme qu'on appelle Dynasty, qui inclut la Tang. La Tang, c'est un SUV 7 places 100% électrique. On a la Han, qui est la magnifique berline qui chapeaute un peu la gamme. Et on a la Atto 3, qui est un SUV de la taille d'une 3008, pour faire simple. Et on a également donc la gamme Océan, avec un design un petit peu plus spécifique, avec donc la Dolphin, la Seal et la Seal U qui vient juste de sortir.
D'accord. Donc en fait, vous catégorisez vos voitures par gamme ou par type de, on va dire de, enfin comment on peut dire ça, lifestyle un petit peu, et pas du tout par type de modèle. C'est-à-dire que c'est pas classé par berline et SUV par exemple.
Alors, on peut aussi les classer comme ça, mais d'un point de vue purement pratique auprès d'une population qui nous connaît pas encore. Ouais, effectivement, ouais. Moi, j'ai tendance à séparer les deux gammes en version Dynasty d'un côté et Océan de l'autre, puisque les Dynasty sont historiquement des modèles qui étaient également vendus en Chine, et la gamme Océan est une gamme, à mon sens, qui a une plus grande chance de performer sur le secteur européen avec des noms un petit peu plus consensuels.
Quelles sont les gammes de prix sur ces voitures?
Alors, on commence avec la Dolphin à partir de 29 990 euros. Donc, c'est une berline compacte du segment C. Et ça va jusqu'à la Han, donc l'énorme berline qui est proposée aux alentours de 70 000 euros.
Alors, les plus connus ici en France, effectivement, je crois qu'on peut dire que c'est aujourd'hui la BYD Seal, qui est une berline de taille moyenne, alors qui correspond un petit peu aujourd'hui à une Tesla Model 3. C'est aussi le best-seller en France.
Alors, ça fait partie des best-sellers. Effectivement, beaucoup de gens la comparent à la Tesla Model 3, ce qui en fait quelque part une certaine référence.
Ouais.
Mais en termes de volume, on imagine que Dolphin et Atto 3 devraient prendre le lead, puisqu'on est sur des tarifs qui sont quand même un peu plus abordables. La Seal, elle est proposée à partir de 46 990 euros pour une version qui fait 313 chevaux et 570 km d'autonomie. Voilà, ça commence à être une routière. et une sportive, puisque elle est également disponible dans une version 4 roues motrices qui fait 530 chevaux.
Et qui est à quel prix, du coup, là, le haut de gamme de la Seal?
Alors, le haut de gamme de la Seal est proposé, lui, à 49 990 euros, donc un écart seulement de 3000 euros entre les deux versions.
D'accord. Alors, on est d'accord que BYD, c'est uniquement des voitures électriques, en tout cas, enfin 100% électriques, en Europe, sur le marché européen?
Alors pour l'instant oui, et on va proposer très prochainement notre technologie DM, qui est en fait de l'hybride rechargeable, notamment sur le véhicule qui s'appelle Seal U, qui est le dernier arrivé, qui est le SUV de la Seal, si on peut permettre un raccourci, mais qui est d'une autre philosophie, puisque c'est une voiture qui est beaucoup plus confortable et familiale que la Seal, et qui elle développe 218 chevaux.
On a remarqué une caractéristique qu'on retrouve un petit peu chez tous les constructeurs chinois. Alors, je ne vais pas vous demander de répondre pour les autres, mais en tout cas, pour BYD est également concerné. Pardon, excusez-moi. C'est que vous avez tous dans votre gamme, dans vos gammes, des voitures qui sont des berlines. Alors qu'on sait que c'est un segment qui est un petit peu désuet en Europe et qu'on préfère de loin soit les breaks, soit les SUV avec ce format un petit peu utilitaire. Et malgré tout, ça fait partie de vos meilleures ventes. Il y a un paradoxe un peu avec ça, non?
Alors, il y a peut-être un petit paradoxe en termes de silhouette, mais pas tellement en termes d'énergie, parce que si on creuse bien dans le segment des berlines, les berlines électriques auraient plutôt tendance à progresser sur un segment, effectivement, qui aurait plutôt tendance à diminuer en Europe.
Alors, ça vient probablement du fait que les berlines proposent un coefficient de pénétration dans l'air qui est plus avantageux et donc une meilleure efficience.
Je pense que vous avez raison, le CX joue très fortement sur les autonomies de nos voitures, et on a un CX notamment sur la Seal qui est de 0,219, qui est un des meilleurs du marché et qui permet effectivement d'avoir de belles autonomies sur ce modèle.
BYD est devenu le leader mondial des ventes de véhicules électriques en 2023, fin 2023, donc c'est un succès assez fulgurant et surtout une croissance assez folle. À quoi vous attribuez ça?
Alors, de mon point de vue, je pense que il y a déjà dans un premier temps, il y a les résultats que peut faire la marque dans son marché domestique en Chine, puisque on est numéro un des ventes en Chine depuis 11 années consécutives. Donc c'est un vrai succès en tout cas sur le continent asiatique. On est présent en Indonésie, en Thaïlande, enfin en tout cas les gens qui voyagent en Asie voient plus souvent nos véhicules qu'en Europe pour le moment. Ouais. Et effectivement, la particularité de BYD par rapport à nos concurrents, c'est qu'en fait nous on est une société qui est vraiment issue de la tech, puisque on a été créé en 1995 pour fabriquer des batteries notamment de téléphones portables, et on construit des voitures seulement depuis 2003. Donc ça va faire 21 ans maintenant.
Alors ça, c'est une caractéristique aussi qu'on retrouve chez les constructeurs chinois, c'est ce tropisme pour la tech, voire même des entreprises qui viennent de la tech. On a le cas aussi avec Xiaomi, qui fabriquait auparavant et qui fabrique toujours d'abord et qui est connu pour ses gammes de produits d'électronique grand public. Donc on retrouve ce point commun. Alors sur le réseau français, enfin sur la distribution, vous avez des volumes déjà qui sont significatifs et vous voyez une croissance importante sur le marché français?
Alors, on voit une croissance assez importante sur le marché français, mais qui aujourd'hui est plus liée au développement de notre réseau, puisque on a fait une demi-année en 2023, donc 6 mois d'activité avec l'ouverture progressive de notre réseau de distribution. Ouais, et donc, effectivement, aujourd'hui, à chaque fois qu'un nouveau point de vente ouvre, c'est des ventes supplémentaires qui se réalisent sur leur zone de chalandise. Et donc aujourd'hui, on a un maillage qui commence à être assez significatif sur le territoire français, mais on va avoir de grosses annonces là dans les semaines et les mois qui viennent, puisqu'on a d'autres groupes de distribution qui vont nous rejoindre, et donc on aura un maillage encore supérieur dans les semaines qui viennent. Aujourd'hui, donc on est présent dans l'Est, en région parisienne, dans l'Ouest, dans le Sud-Ouest et globalement partout dans le Sud et dans le Sud-Est de la France. Donc il reste encore quelques trous à remplir, mais ça devrait aller assez vite avec ces prochains distributeurs.
Alors ces distributeurs, vous parlez de groupes de distribution, ça veut dire que vous êtes par exemple, des concessions BYD sont jumelées avec des concessions d'autres marques sur les mêmes points de vente?
Alors, on n'a pas de concessionnaire multimarque qui mettrait potentiellement des voitures de marques différentes dans le même showroom.
Oui.
En revanche, on a bien des distributeurs qui distribuent d'autres marques dans des showrooms bien séparés.
D'accord.
Mais pour
Sur
vous
la même
donner
zone de chalandise, en
sur
fait.
la même zone de chalandise, pour vous donner un exemple très concret, on travaille avec le groupe Bodmer qui vient d'ouvrir sa concession à Nantes.
Ouais.
Et le groupe Bodmer, historiquement, distribue Renault et Nissan sur toute la Bretagne, dans des showrooms bien séparés.
Puisqu'on parle de développement et de réseau, est-ce que BYD, alors c'est une question qu'on pose rarement à un constructeur automobile, mais est-ce que vous avez des plans pour développer votre propre réseau de bornes de recharge? Ou est-ce que c'est pas du tout dans le...
C'est pas du tout à l'étude pour BYD Europe. Aujourd'hui, BYD Europe a signé un partenariat avec Shell.
Ouais.
Mais comme vous le savez peut-être, Shell est assez peu présent en France par rapport à d'autres opérateurs. Donc BYD France est à la recherche d'un partenaire sur le territoire national. Oui.
Parlons un petit peu réglementation. On va parler. On a parlé de l'Europe. Oui, d'ailleurs, vous avez des usines en Europe?
Alors oui, en fait, on a une première usine en Hongrie qui fabrique des bus électriques depuis quelques années déjà.
Ouais.
Donc on est industriellement déjà implanté sur le continent, et on a annoncé et on annonce depuis l'arrivée de la marque au Mondial 2022
Ouais.
que nous allions s'implanter industriellement pour le VP cette fois-ci, et on a donné la localisation de cette usine qui sera également en Hongrie et qui devrait commencer à sortir des voitures en 2025.
La France avait été candidate pour cette implantation, il me semble, non?
Oui, absolument. La France, l'Allemagne, la Pologne, voilà, beaucoup de pays européens étaient intéressés par cette implantation. Je pense que pour des raisons de logistique et de simplicité, puisqu'on était déjà implanté en Hongrie, on avait déjà un écosystème de fournisseurs, on connaissait bien le pays, donc le choix s'est naturellement porté vers la Hongrie.
Est-ce qu'il y a d'autres usines prévues dans d'autres pays européens?
Alors, dans l'immédiat, non. Il y a quelques rumeurs effectivement qui circulent sur la France et l'Italie. J'ai pu voir ça dans la presse, mais pour le moment, rien de concret.
Alors concernant l'Europe, vous savez qu'il y a une enquête actuellement initiée par la Commission européenne sur les subventions de l'État chinois aux constructeurs chinois. Est-ce que BYD est concerné? On parle de 3 milliards 700 millions de dollars.
J'ai entendu beaucoup de chiffres différents.
Ouais.
Je pense qu'il est un petit peu prématuré pour se positionner. Alors, gardons une certaine mesure. J'ai la faiblesse de croire que tous les pays et toutes les industries ont, dans des moments difficiles, défendu leur constructeur automobile. Je pense aux États-Unis, je pense à la France. Bon, attendons la fin de l'enquête pour répondre de manière sereine à ce sujet un peu délicat.
Quelles sont les marques que BYD considère comme des concurrentes en Europe?
Alors en fait, tout dépend du prisme avec lequel on regarde la marque.
Ouais.
On l'a dit au tout début, d'un point de vue purement produit, on peut effectivement considérer, ou certains pourraient considérer, que Tesla est notre concurrent direct. De notre point de vue, en fait, c'est parfaitement un partenaire, puisque nous sommes un des fournisseurs de Tesla, notamment pour ce qui est des batteries. Si on regarde la marque avec un prisme plus national, on peut imaginer que des marques du groupe SAIC comme MG pourraient être un concurrent. Et en fait, BYD imagine que tous ceux qui proposent des solutions électriques pour leurs consommateurs, mais en fait, ce sont pas tellement des concurrents, mais plutôt des partenaires avec lesquels il faut travailler, puisque le but de BYD, c'est vraiment d'électrifier le marché et de rendre cette mobilité électrique accessible au plus grand nombre.
En quoi consiste, sans rentrer trop dans des détails trop techniques, la technologie des batteries Blade produites par BYD?
Alors, la grande différence, effectivement, c'est la technologie et les matériaux utilisés pour réaliser ces batteries. Donc, c'est des batteries qui sont lithium-fer-phosphate.
Ouais.
Ce qui présente une petite différence avec d'autres solutions. Nous, on a fait ce choix-là pour des raisons très simples de sécurité, de longévité et de recyclabilité. Et donc, effectivement, il n'y a pas de métaux rares, il n'y a pas de cobalt. Et donc, on a la certitude que ces batteries seront beaucoup plus simples à recycler et qu'elles auront une durée de vie beaucoup plus longue.
Elles sont plus respectueuses de l'environnement aussi, de cette façon?
Oui, parce que sans métaux rares, c'est potentiellement voilà des mines dont on n'a pas besoin et on se concentre sur les trois matériaux évoqués, donc lithium, fer, phosphate, qui est une solution en tout cas plutôt respectueuse de l'environnement par rapport à d'autres solutions. Et ces batteries LFP sont également beaucoup plus sûres. Moi, j'invite les internautes à découvrir le test de pénétration du clou ou le nail penetration test, qui est assez redoutable, puisque c'est le sommet de tous les tests dans cette industrie, où on vient percer une batterie avec une perceuse.
Ouais.
Et avec nos batteries LFP, il n'y a pas d'emballement thermique, il n'y a pas de flamme, il n'y a pas d'explosion. Donc, c'est des batteries qui sont effectivement très sûres. Et tous nos véhicules sont 5 étoiles Euro NCAP, ils passent les crash tests sans aucun problème.
Donc ça veut dire que quand on perce une batterie LFP telle que vos batteries Blade, il ne se passe rien du tout. Elle va plus fonctionner, mais elle ne prend pas feu.
Elle ne prend pas feu, et peut-être que ça sera seulement la batterie que vous avez percée qui ne fonctionnera plus, le reste de la batterie continuera de fonctionner, puisque c'est des lames qui sont indépendantes.
D'accord, donc les lames sont indépendantes, ça veut dire que si on a ce type d'incident, par exemple en roulant et en roulant sur un obstacle, on peut simplement seulement remplacer une lame et non pas toute la batterie.
Tout le pack, absolument, absolument.
Alors là, j'ai deux, trois questions. On va passer après aux questions des auditeurs en audio. On m'avait quand même posé cette question au sujet de la Seagull ou Dolphin Mini, avec un souhait, il semblerait, pour le marché français, qu'elle passe en dessous des 20 000 euros, malgré l'absence de bonus.
Alors, c'est malheureusement encore un tout petit peu tôt pour évoquer ce modèle. Pour être transparent avec vous, on travaille sur des lancements de véhicules qui correspondent en France au segment B, donc des voitures de plus petite taille, mais aujourd'hui il est encore un tout petit peu tôt effectivement pour évoquer et les dates de lancement et les tarifs, mais il y a des projets dans les cartons, je vous le confirme.
Côté utilitaire, on parle de l'ETP3, est-ce que vous avez des vues sur le marché de l'utilitaire en Europe ?
Oui, alors des vues qui sont à l'image de BYD, donc on se veut humble mais volontaire, donc on a vraiment l'intention d'aller sur ce terrain-là, et ça nous permet également auprès des entreprises d'avoir une offre complète à la fois de VP et de VU, et l'idée effectivement c'est d'arriver à électrifier ce que les logisticiens appellent le dernier kilomètre pour rendre des livraisons neutres en émissions de carbone.
Jean Briac, si vous voulez bien, on va passer aux questions des auditeurs. J'ai 6 questions qui sont assez précises et parfois même un peu pointues parce qu'on a affaire à des connaisseurs. On y va.
Bonjour Jean-Christophe d'Arcachon. Petite question à Jean Briac. De nombreux essayeurs ont fait des longs trajets avec une BYD Seal, par exemple, ou d'autres BYD, et ont souffert de problèmes de charge très très lente. Sachant que BYD est un grand spécialiste de la batterie et que les batteries Blade utilisées sur la Tesla Model Y berlinoise semblent vraiment fonctionner à merveille au niveau de la recharge, comment se fait-il qu'il y ait des problèmes avec les différents modèles de BYD ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a des problèmes de temps en temps, surtout quand les charges sont répétées, de puissance de charge qui sont vraiment très très limitées ? Et qui font durer la charge plus d'une heure pour un 1080. Et est-ce que BYD travaille là-dessus et est-ce que les problèmes seront réglés rapidement ? Voilà, merci beaucoup.
Alors, Jean-Briac, je précise que la personne qui vient de poser la question n'est pas totalement anonyme, c'est Jean-Christophe Gignac de la chaîne EV. Donc, il connaît assez bien le sujet et je crois qu'il a essayé la BYD Seal en longueur.
Absolument, et effectivement, on a quelques personnes qui ont constaté ce problème ou cette difficulté. Alors, d'un point de vue purement pratique, on va pas se le cacher, les voitures que l'on prête aux journalistes sont hyper sollicitées, notamment les cils qui ont été essayées par les médias au mois de novembre. Elles ont connu des cycles de recharge quasiment permanents pendant plus d'une semaine. Donc, voilà, elles peuvent avoir ce défaut-là. Deuxième point, effectivement, on travaille pour améliorer cela. Et j'ai envie de reprendre la métaphore de, je crois que c'était Elon Musk qui avait fait cette comparaison, en expliquant que recharger une batterie, c'est aussi un petit peu comme remplir une bouteille d'eau. Plus on arrive vers la fin et plus on y va lentement pour pas que ça déborde. Et nous, on a le sentiment que avec des puissances de recharge peut-être inférieure à celle d'un concurrent comme Tesla, nos batteries dureront un peu plus longtemps. Et dernier point peut-être pour rassurer Jean-Christophe, effectivement on travaille là-dessus, on a déjà des solutions un petit peu différentes, notamment sur notre marque de luxe qui s'appelle Yangwang, où en fait on aura même la possibilité de recharger les voitures des deux côtés. Et donc double recharge en même temps, ce qui devrait accélérer fortement le temps de charge.
Une autre question, alors je crois que c'est Jean-Christophe encore.
De nombreux utilisateurs de voitures électriques sont tombés, j'ai envie de dire, amoureux de la conduite à une pédale, du one pedal donc. Et les BYD ne sont pas équipés du one pedal. Alors ma question est-ce que BYD pense passer au one pedal sur ses modèles un jour? Voilà, merci.
Alors aujourd'hui non, clairement pas. On sait que passer de la mobilité thermique à la mobilité électrique est parfois un grand pas, et donc on veut pas non plus changer totalement les usages des consommateurs. Ça viendra peut-être dans un second temps ou sous forme de fonctionnalités supplémentaires, mais à l'heure à laquelle on se parle, il y a pas de solution one pedal de prévu dans l'immédiat.
Salut, c'est Charles de Lyon. J'ai une petite question concernant la gamme BYD. J'avais vu qu'il y avait un BYD An en version break qui devait être annoncé, sans date de sortie. Je veux savoir si c'est toujours d'actualité ou non, car le marché européen est quand même assez friand des breaks, et il y en a très peu aujourd'hui en électrique. Donc, merci pour la réponse.
Alors, aujourd'hui, je suis navré, on n'a pas de version break dans les cartons qui doivent arriver tout de suite en Europe. Je vais me renseigner de mon côté sur le marché chinois, mais à ce stade, pas de sortie de break prévue pour 2024.
Bonjour Eric, bonjour Jean Briac et aux auditeurs du podcast, c'est Gary d'Arras. Moi j'ai une petite question, j'ai lu tout récemment une actu comme quoi la batterie Blade allait évoluer avec une meilleure densité énergétique, et ce d'ici la fin de l'année. Donc j'aurais voulu savoir quel modèle était concerné pour la gamme BYD en Europe, et la deuxième question c'est, est-ce que ça risque pas de générer un peu de frustration pour les personnes qui ont acheté récemment une BYD, est-ce que par exemple pour ces clients là BYD s'engagerait à leur faire des offres de reprise à tarifs préférentiels pour qu'ils ne se sentent pas lésés par ces avancées technologiques qui sont très rapides dans le milieu industriel autour du véhicule électrique. Voilà, merci en tout cas.
Effectivement, on a appris début avril, à l'occasion, je crois, d'une conférence de presse sur les résultats de BYD, que la marque travaillait sur une deuxième génération de batterie Blade, mais qui ne devrait pas arriver dans l'immédiat sur les véhicules vendu en Europe, donc ça sera à mon avis pas avant 2025-2026, et auquel cas peut-être que le réseau de distribution fera des gestes commerciaux en direction de ses premiers clients. Ça reste quand même un bon moyen de fidéliser ses clients que de faire des remises commerciales à nos primo clients en France et en Europe.
Bonjour à tous, bonjour Jean Briac, Jean-Marc de Brie-sur-Marne. Au dernier Mondial de Paris, j'ai eu l'occasion d'essayer l'Atto 3, qui m'a très impressionné par sa facilité de conduite et son ambiance intérieure. Et ma question est la suivante. Qu'en est-il pour l'après-vente, savoir si c'est géré en interne ou par un prestataire? Merci.
Alors, tout l'après-vente est géré par nos distributeurs. On a également des équipes après-vente au sein de BYD France qui se déplacent partout dans le réseau pour former justement les mécaniciens de nos distributeurs. Donc on ne fait que s'associer à des distributeurs qui sont capables aussi d'assurer cette partie après-vente qui, nous le savons, est potentiellement un frein à l'achat d'un véhicule électrique. Et sur ce point, on a une vision qui est assez différente de celle d'un constructeur américain que je ne citerai pas pour la quatrième fois. On a effectivement un réseau de distribution qui peut faire de la réparation sur place, systématiquement.
Très bien, une dernière question.
Du coup, Roland de Grenoble, je rebondis sur la question de JC sur la courbe de charge de la BYD. C'est vrai qu'on a vu qu'il y avait des problèmes dans les différentes vidéos qu'on peut voir, en particulier sur la cile. C'est vrai que sur la modèle Y, on a une courbe de charge où on voit on est à 170 kW. Et c'est plutôt stable pendant toute la durée de la charge, quasiment. Je voulais savoir si... est-ce que c'est le fait que Tesla a plus travaillé un peu sur... au niveau du BMS, de la charge de la batterie. Et pour rejoindre la question de JC, oui, effectivement. Est-ce que BYD travaille à cela pour essayer d'améliorer ses courbes de charge de batterie? Voilà.
Alors oui, on travaille d'arrache-pied pour améliorer ce fameux score et ce temps d'attente sur les bandes de recharge. De tête, je crois que la cile accepte des recharges jusqu'à 140 kW, si je ne dis pas de bêtises. Et effectivement, on va essayer d'améliorer ça, puisque ça fait partie des freins à l'achat de certaines personnes sur le véhicule électrique. Et comme je vous disais, sur une marque de luxe comme la Yangwang, on a déjà trouvé des solutions pour réduire ce temps.
Très bien. Jean Briac, j'ai quelques questions qui sont plus légères, un petit peu médiatiques. Vous avez remporté le sponsoring officiel de l'Euro de foot 2024, là. De mémoire, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais jusqu'à présent, c'était Volkswagen, je crois, qui était sponsor officiel. C'est une conquête importante pour vous, symbolique, et vous avez des retombées déjà, vis-à-vis en termes de notoriété, de vos clients, etc.
Alors, c'est le tout début, puisqu'on a commencé les activations pour l'euro à partir du mois d'avril, hein, donc c'est vraiment le tout début des premières retombées et de l'amélioration de notre notoriété sur le territoire européen. Mais clairement, c'est un très gros partenariat qui nous permet effectivement d'avoir une visibilité auprès de toute l'Europe, mais pas que, puisque je pense notamment aux pays d'Amérique latine qui sont fans de foot regarderont probablement les matchs aussi de l'euro. Ça améliore notre visibilité en Europe, qui est le continent sur lequel la marque est en train de se développer. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, BYD est présent dans plus de 21 pays en Europe. On a commencé par les pays nordiques, puisqu'ils ont naturellement, ou en tout cas, ils ont une meilleure implantation de recharge partout dans leur pays. Et les clients sont globalement un peu plus matures à l'achat de l'électrique. Et donc, ça participe pleinement au développement de la marque en Europe. Ce partenariat avec l'euro devrait effectivement nous faire gagner en visibilité. Et de manière peut-être plus locale et plus tactique, BYD France est partenaire officiel de la Transat CIC, qui est une transatlantique qui part de l'Orient, qui rejoindra New York et qui permet effectivement à la marque d'avoir une visibilité supplémentaire sur l'ouest de la France.
Quel est votre premier marché en Europe d'ailleurs ?
Alors à ce jour, ça doit être l'Allemagne, même si très récemment les ventes d'électriques ont un petit peu baissé suite à la fin de l'incentive du gouvernement. En termes de volume, l'Allemagne reste un des pays les plus importants. Et si on parle de part de marché pure, les pays nordiques sont très importants pour la marque, puisque le modèle Atto 3 qu'un de vos auditeurs a cité un peu plus tôt est un des modèles les plus vendus, notamment en Norvège. Mais comme on a une technologie qui dispose également d'une pompe à chaleur, imaginez que ce même modèle est aussi un des plus vendus en Israël, puisque nos pompes à chaleur permettent une bonne utilisation de notre batterie de moins 30 degrés jusqu'à plus 60 degrés.
Vous avez aussi diffusé ces dernières semaines une publicité TV pour la BYD Seal, donc le modèle élu a été cette voiture. Vous avez là également des retombées, sachant que hormis MG, qui est un petit peu un cas à part, à ma connaissance, aucun autre constructeur chinois ne fait de publicité sur les ondes françaises.
Alors oui, on commence à avoir des retombées, mais pour moi, la publicité vient rajouter, entre guillemets, de la surimpression à ce qu'on est déjà capable de faire en termes de participation à des événements. Et effectivement, aujourd'hui, on a des clients qui peuvent venir un peu plus spontanément dans les showrooms pour essayer ou configurer une voiture, notamment grâce à cet impact publicitaire qui est significatif, oui.
Dernière question, toujours relative aux médias.
Kadmerad est-il toujours votre ambassadeur?
Alors oui, Kadmerad est en fait l'ambassadeur de BYD by Maika, hein, qui est notre distributeur parisien, et il a récupéré, je crois, sa voiture au début du mois d'avril, et on pousse un petit peu nos distributeurs à avoir des actions tactiques un peu locales. J'ai tout à fait conscience que Kadmerad a une aura très largement nationale, et donc c'est un vrai plus pour la marque, parce qu'il a une personnalité qui est très positive. C'est un très bon comédien, donc nous on est très satisfait effectivement de ce partenariat.
Vous savez s'il roulait déjà en voiture électrique avant ce deal avec BYD, ou c'est sa première voiture électrique?
Alors pour moi c'est sa première voiture électrique, puisque de tête, une de ses premières inquiétudes c'était la recharge.
Ok.
Mais on s'y habitue vite. On s'y habitue vite, Kad. Ça va bien se passer.
Alors j'allais vous poser une question que je pose à tous mes interlocuteurs, mais je ne vais pas vous la poser parce que je connais la réponse. Est-ce que vous roulez en voiture électrique? J'imagine que oui. Et j'imagine que c'est une BYD. Quel modèle peut-être, si ce n'est pas indiscret?
C'est pas du tout indiscret. Moi, je roule en Atto 3, donc le SUV du segment C, qui est très pratique, très silencieux. Honnêtement, moi, je suis passé d'un très très vieux modèle thermique à une voiture électrique. Donc, je pense que j'ai dû sauter deux ou trois générations d'un coup. Et c'est vraiment très appréciable, parce qu'effectivement, on a accès à tout avec les mains ou les commandes vocales, et on a surtout une voiture qui est très très bien équipée. Alors je vais pas vous dire le secret de la mensualité que je paye chaque mois, puisque c'est une voiture de fonction, mais c'est vraiment un changement drastique. C'est une nouvelle organisation aussi à trouver pour ce qui est des recharges,
mais
on prend vite le pas, et surtout j'ai très rapidement compris que ça servait à rien de recharger sa voiture jusqu'à 100%. Ce qu'il faut, c'est optimiser ses temps de charge en la rechargeant jusqu'à aller souvent moins c'est 84% sur ma voiture.
Elle est vendue pour quelle autonomie, cette voiture?
Alors c'est 420 km en mix WLTP, évidemment c'est un peu moins sur autoroute, un peu plus quand on fait de la ville, mais c'est largement suffisant pour l'utilisation que j'en ai au quotidien.
Très bien, merci beaucoup Jean-Briac Dalibard. Je rappelle que vous êtes PR Manager France pour la marque BYD, la marque de voitures chinoises qui ne cesse de monter. Merci.
Eh bien, je vous en prie, excellente journée.
L'essai de la semaine.
BMW a sans doute beaucoup travaillé la question du packaging au moment de lancer son iX2. Pour la première fois, le petit SUV coupé de la gamme, qui s'inscrit désormais dans la lignée des célèbres X4 et X6, se met à l'électrique. Mais écoutez plutôt ce qu'en pense Andy David, notre essayeur maison.
Salut à tous et bienvenue sur Automobile Pro. Mon nom est Andy David et aujourd'hui je suis au Portugal en présence du nouveau BMW iX2. C'est la première fois que le BMW iX2 se met à l'électrique. Alors le iX2, on le connaissait jusqu'ici, c'était un peu à mi-chemin entre la compacte et le SUV. Là, cette nouvelle génération, elle prend plus clairement une orientation SUV coupé avec une ligne un petit peu différente. Il est plus large, plus long. Alors ce iX2, il a clairement maintenant une allure de SUV coupé, hein, comme les X4 et X6, alors que le X2 avant, il était un petit peu plus en mode compact. D'ailleurs, il grandit, fait 4,55 m de longueur. En largeur, c'est 1,84 m. En hauteur, c'est 1,59 m. Donc, en gros, vous pouvez le placer quelque part entre un Volvo EX30 et un cran en dessous d'une Tesla Model Y. Alors, évidemment, on est chez BMW. Ces dernières années, on a beaucoup aimé les gros haricots. Là, c'est très élargi par rapport au X1, hein, qui est son cousin technique. C'est évidemment aveugle. Alors, voilà, on a des petits éléments triangulaires, mais c'est une calandre qui est évidemment fermé, puisqu'on n'a pas les mêmes besoins de refroidissement sur un véhicule électrique. Et comme de tradition sur Automobile Propre, on termine notre essai à la borne. Alors, c'est pas une borne rapide, hein, mais c'est sans doute une des plus sympas que j'ai croisées dans ma vie, là, en bord de mer, à Caix-Caix. Alors, sachez que sur du 11 kW, on se recharge en 6h30. En revanche, côté rapide, le col, entre guillemets, il a été plafonné à 130 kW, qui est dans la moyenne à peu près des concurrents, hein, notamment allemands. Comme toujours, vous le savez, hein, sur Automobile Propre, nous les essayeurs, on fait les premières impressions. Après, il y a Soufiane Benhamouda qui va passer pour son super test. Et là, vous aurez toutes les courbes, les crêtes, etc. Tous les détails sur la recharge et sur les consos. On s'en reparle dans quelques mois sur Automobile Propre. Est-ce que vous pensez que BMW est sur la bonne voie? Est-ce que vous pensez que ce véhicule est pertinent? On s'en parle dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve très très vite sur Automobile Propre. Ciao!
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques, questions, suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut!